Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 7 mars 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Voici les titres. En RDC, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, plaide pour une médiation qui passerait par les Congolais eux-mêmes dans le conflit armé qui fait rage dans l'est de la RDC. Deux chercheurs camerounais et leur guide ont été tués par des villageois en colère dans l'extrême nord du pays. En Guinée, le procès en appel de Mohamed Diané s'est ouvert hier jeudi à Conakry devant une cour spéciale. Lors d'un sommet de crise à Bruxelles hier jeudi, les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et leur volonté de renforcer leur défense. Et dans notre partie magazine, dans l'est de la République démocratique du Congo, le mois sacré du Ramadan est différent cette année pour les musulmans de Bukavu, ville conquise mi-février par le groupe armé M23.
Tel qu'on est en train de le constater ces derniers temps dans la ville, il y a vraiment l'insécurité et beaucoup de musulmans se disent rester chez soi, prier cette prière là-bas chez soi.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, plaide pour une médiation qui passerait par les Congolais eux-mêmes dans le conflit armé qui fait rage dans l'est de son pays. Il a répondu à une interview que la chaîne de télévision officielle namibienne NBC a diffusée hier. Le point avec Eddie Sango.
Aucun médiateur, aucun facilitateur ne te dira qu'il connaît mieux la RDC que les Congolais eux-mêmes parce qu'ils ont déjà été là. Ils ont déjà escaladé cette montagne et sont descendus à la vallée. C'est une autre montagne à grimper. Ils connaissent mieux comment et de quoi ils souffrent, a expliqué Joseph Kabila. À 53 ans, l'ancien président de la RDC a puisé dans son expérience d'ancien chef d'État pour s'interroger si la thérapie dont il s'est plusieurs fois servi par le passé peut aider pour la crise actuelle avec des armées des sept nations impliquées, des multiples groupes armés mais aussi d'innombrables mercenaires. Le leader du PPRD soutient vouloir continuer à servir son peuple, son pays et son continent sans préciser comment. Son successeur depuis 2019, le président Félix Tshisekedi a annoncé il y a un peu plus de deux semaines lors d'une rencontre avec sa famille politique à Kinshasa vouloir mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour apaiser la crise dans un pays confronté à une guerre qui fait rage dans l'Est avec les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, selon les experts onusiens. Il a récemment accusé l'ancien président d'être derrière la guerre.
Les députés togolais ont adopté jeudi à la majorité absolue un projet de loi autorisant une nouvelle prolongation de l'état d'urgence sécuritaire pour un an dans l'extrême nord du pays en proie à des attaques djihadistes. Pour le ministre de l'administration territoriale, le colonel Ohodabualo Awate, cette loi permettra au gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes qui mènent aujourd'hui une guerre asymétrique et de protéger les populations concernées ainsi que leurs biens. Deux chercheurs camerounais et leur guide ont été tués par des villageois en colère qui les ont battus, ligotés et brûlés en pensant avoir affaire à des combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Dans l'extrême nord du pays, le syndicat national des chercheurs demande une enquête. Alexandrine Rolognon.
Le drame est survenu dimanche. L'équipe de chercheurs se trouvait à Soulé-des-Roua, une localité du Mayo-Tchananga, dans le cadre d'une mission de recherche pour la collecte de données complémentaires en géologie structurale. C'était le jour du marché. 6 personnes sont allées faire des emplettes. Les populations auraient cherché à connaître d'où elles venaient. Les 6 personnes ont donc engagé une course afin d'échapper à leurs poursuivants. 3 personnes parmi les 6 ont été rattrapées, battues, ligotées et brûlées, selon le préfet du Mayo-Tchananga, Jean-Bosco Avom, à la CRTV. L'identité des 3 victimes n'a été découverte qu'après le forfait, a affirmé la radio d'État, en rappelant que la population locale était régulièrement victime d'attaques de Boko Haram. Le syndicat national des chercheurs a dénoncé dans un communiqué un meurtre horrible et demandé l'ouverture d'une enquête pour que les auteurs répondent de leurs crimes devant la loi.
En Guinée, le procès en appel de Mohamed Diané s'est ouvert hier jeudi à Conakry devant une cour spéciale. L'ancien ministre de la Défense du président Alpha Condé est poursuivi entre autres pour corruption. Les précisions avec Mouamadou Onfa.
Mohamed Diané, tout puissant ministre de 2015 à 2021, écroué depuis 2022, a été condamné en première instance à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. M. Diané a clamé son innocence devant la Chambre d'appel de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé le président Condé. Je réaffirme mon innocence face aux accusations portées contre moi, lesquelles ne reposent sur aucune preuve tangible ni sur une base juridique solide. Les irrégularités flagrantes qui ont entaché cette procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au verdict final, sont indéniables, s'est-il défendu. C'est évident que ma condamnation repose sur des allégations vagues et non étayées, ce qui constitue une violation flagrante des principes fondamentaux du droit pénal, a dénoncé M. Diané, qui fustige un parti pris évident. En détention à la maison centrale de Conakry depuis mai 2022, M. Diané ne s'est jamais soumis aux interrogations de la CRIEF. Il est l'un des nombreux anciens dirigeants et figures de l'opposition ou de la société civile, incarcérés ou inquiétés sous la junte militaire.
Les États-Unis ont quitté le partenariat pour une transition énergétique juste avec l'Afrique du Sud et l'Indonésie, un accord international visant à aider à financer la sortie du charbon de ces deux pays, ont annoncé jeudi Pretoria et Jakarta. Le retrait américain réduit les engagements internationaux actuels en faveur de l'Afrique du Sud de 13,8 milliards de dollars à 12,8 milliards de dollars, selon le même communiqué. Ce milliard promis par Washington lors de la conclusion de l'accord était largement constitué d'investissements commerciaux potentiels, est-il précisé.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il se rendrait en Arabie Saoudite, pays avec lequel il dit entretenir d'excellentes relations et qui va, selon lui, investir massivement aux États-Unis. Il n'a cependant évoqué aucune date précise. Interrogé par un journaliste s'il comptait se rendre en Arabie Saoudite pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, il a répondu « je ne sais pas ». Je ne peux pas vous dire, j'irai en Arabie Saoudite. Le président américain avait annoncé le 12 février, le jour de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, qu'il rencontrerait son homologue russe en Arabie Saoudite. Aucune date n'a été fixée pour cette rencontre. Lors d'un sommet de crise à Bruxelles hier jeudi, les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine et leur volonté de renforcer leur défense. Ils ont approuvé un plan proposé par la Commission européenne, tandis que Washington annonçait une nouvelle réunion avec Kiev et en Arabie Saoudite, selon une porte-parole de l'Union européenne. Le point avec Eric Manilakis.
Le plan présenté par la Commission européenne propose un investissement massif de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe, dont 150 milliards sous forme de prêts. L'un des points clés est la possibilité pour les États membres d'augmenter leurs dépenses militaires sans que cela affecte leur déficit budgétaire, traditionnellement limité à 3% du produit intérieur brut. Une telle mesure pourrait permettre de libérer jusqu'à 650 milliards d'euros sur 4 ans, une initiative qui marque un tournant. La Commission européenne prévoit de mettre à disposition des États membres environ 150 milliards d'euros pour financer des projets communs dans des domaines critiques comme la défense anti-aérienne, les missiles, les drones et les systèmes d'artillerie. L'objectif est de renforcer collectivement les capacités militaires de l'Union européenne et de soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. Le Premier ministre norvégien a annoncé une augmentation de l'aide à l'Ukraine de 4,2 milliards d'euros pour 2025, portant l'aide totale à 7,2 milliards d'euros. Le ministre allemand de la Défense a souligné un paquet d'aides militaires de 3 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine et son armée. Le président ukrainien exhorte à ne pas relâcher la pression sur la Russie. La France et l'Allemagne ont pris des initiatives supplémentaires pour compenser les éventuelles pertes dues à un désengagement militaire américain. Le président français Emmanuel Macron a aussi évoqué l'idée d'un parapluie nucléaire français pour protéger l'Europe, une proposition qui, bien que sensible, semble recueillir une certaine ouverture chez les dirigeants scandinaves.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. présent la Minute Éco avec Nani Talani.
Le prix de l'essence au Nigeria a chuté à 860 naira le litre en raison de la concurrence entre la raffinerie Dangote, la plus grande du continent, et la compagnie pétrolière nationale NPC. Dangote, qui a commencé à produire de l'essence en septembre, a baissé les prix de dépôt en février, entraînant une réduction significative des prix à la pompe qui avait atteint environ 1030 naira en 2024. La NPC a suivi cette initiative en abaissant aussi ses prix. Eurasian Resources Group a déclaré la force majeure sur ses livraisons de cobalt en raison du moratoire temporaire sur les exportations de la RDC. Le pays, premier producteur mondial de cobalt, a suspendu ses exportations pour 4 mois afin de gérer un excédent d'offres, ce qui a entraîné une chute des prix. RG, qui ne dispose pas de stock en dehors de la RDC, est ainsi dans l'incapacité de respecter ses engagements contractuels. Pour terminer, l'autorité de gestion des parcs nationaux du Zimbabwe accuse un projet d'exploration de charbon dans le parc national de Wangé d'être une menace pour la survie des rhinocéros noirs.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Nous parlons de surf ce matin et nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où la discipline prend de l'ampleur.
Oui, la plage d'Assini à 80 km d'Abidjan a accueilli fin février pour la première fois un tournoi continental de surf dénommé l'Africa Surf Tour. Cette compétition est le symbole de l'essor de la discipline dans le pays et sur le continent. 46 surfeurs professionnels et amateurs ont pu faire montre de leur talent dans ce sport. Le récit est de Blanche Sanou.
Sur la plage ivoirienne d'Assini qu'il a vu grandir, Souleymane Sidibé regarde. Il doit montrer au jury d'une compétition africaine de surf qu'il est un futur champion. Parmi les dizaines de supporters, de jeunes surfeurs amateurs, drapeau ivoirien à la main, ont, comme lui, dû se former seuls en imitant les plus expérimentés.
On apprend beaucoup parce que la majorité des surfeurs, c'est des gars qui sont pros. C'est-à-dire qu'ils ont un très bon niveau, ils ont beaucoup voyagé. Et pour nous qui n'avons pas eu l'occasion de trop voyager, c'est le moment de prendre de l'expérience, apprendre de ces gars qui sont super forts. Là.
Avec un littoral de 570 km sur l'Atlantique et des vagues parfois impressionnantes, la Côte d'Ivoire essaie d'exister sur la carte africaine de surf dominée par l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Sénégal. Souleymane Sidibé reconnaît avoir besoin de voyager pour progresser, mais vante les mérites de la plage d'Assini.
Si j'ai eu l'occasion d'être sponsorisé, je pourrais voyager aux États-Unis, faire quelques mois, mais je ne pourrais pas rester tout le temps là-bas, parce que j'ai besoin de ces genres de vagues ici à Assini. Elles sont puissantes, elles ne sont pas longues, mais elles ont beaucoup de tremplins pour faire des grosses manœuvres.
Pour profiter de ces puissantes vagues d'Assini, l'athlète de 30 ans a créé une ONG et ouvert une école, la Souley Surf School, venue s'ajouter à la poignée de clubs qui existent depuis 2017.
Mon but, c'est de partager mon expérience avec toutes les personnes désireuses d'apprendre. Et ouais, aujourd'hui, on vit du surf. C'est pas comme le football, mais on vit du surf et on est content tous les matins. Je pense que c'est vraiment ça aussi le plus important, quoi.
En Côte d'Ivoire, The West Factory est le premier et le seul atelier du pays à fabriquer des planches de surf depuis 2014. Dans un quartier d'Abidjan, l'atelier produit entre 50 et 60 planches par an, vendues entre 350 000 et 500 000 francs CFA.
Nous sommes le seul atelier en Côte d'Ivoire, le seul shaper. Et on reçoit des gars qui viennent acheter les planches de surf de Ghana, Nigeria et Sénégal qui viennent acheter les planches. Et aussi, on a sponsorisé d'autres personnes, des grands surfeurs.
Sur les 46 participants de l'Africa Surf Tour d'Assini, seuls 5 parviennent à vivre de ce sport. Le Sud-Africain Paul Samson, vainqueur, et 4 Sénégalais, dont l'espoir, Chérif Fall.
Merci Blanche.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, le mois sacré du Ramadan est différent cette année pour les musulmans de Bukavu, ville en crise mi-février par le groupe armé M23. Les prières se font à domicile et les ruptures du jeûne moins festives. Jean-Roger Billon nous en dit plus.
Dans la localité de Bukavu, les musulmans représentent environ 15 000 familles dans cette cité d'un million d'habitants et quelques 5% de la population de la province, dont la ville est le chef-lieu. À la mosquée, les fidèles sont désorientés. Cheikh Moussa Awam, imam de la mosquée de Niawera, un quartier du centre-ville de Bukavu, se désole d'une perte de repères.
C'est le premier ramadan qu'on vit à Bukavu dans une situation de détresse et un climat de guerre. Les musulmans arrivent partagés entre la joie et la douleur et nous prions quand même à midi et à 15 heures. Ensuite, nous rentrons à la maison.
La guerre à Bukavu a perturbé le programme de prière en raison de l'insécurité ambiante. Les combats dans et autour de la localité ont obligé les responsables des mosquées de Bukavu à enjoindre les fidèles ne vivant pas dans les proches environs à rester chez eux pour les prières d'après la tombée du jour, notamment les tarawih, prières nocturnes propres au Ramadan. Junior Saleh est le secrétaire exécutif de la mosquée de Niawera.
Manque d'engouement dans notre mosquée. Dans cette prière ici des 12 heures, c'est dit au manque de la sécurité dans notre ville. Tel qu'on est en train de le constater ces derniers temps dans la ville, il y a vraiment l'insécurité. Et beaucoup de musulmans se disent rester chez soi, prier cette prière là-bas chez soi. Donc c'est un peu compliqué par rapport à d'autres mois du Ramadan.
À l'heure de la rupture du jeûne et de la tombée de la nuit, se promener dans la ville est compliqué. Toujours à cause de l'insécurité, l'iftar, le repas de rupture du jeûne, pris après le coucher du soleil, se fait en comité plus restreint que d'habitude, explique Saleh Rajabou, représentant de la communauté islamique du Sud Kivu.
D'habitude, ici, il faudrait qu'il y ait foule de musulmans qui sont en train de venir ici pour la rupture de carême. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme nous sommes dans la situation actuelle, il n'y a pas de musulmans qui viennent faire les ruptures.
Certains habitants ont eu le temps de faire des provisions à la maison avant la prise de la ville, mais d'autres sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire de stock de nourriture. Pour de nombreux fidèles, le repas sera modeste. Les banques sont fermées depuis la prise de Bukavu par le M23 et les habitants n'ont plus accès aux liquidités, rendant l'approvisionnement difficile.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Rwanda, l'intelligence artificielle révolutionne l'accès aux soins de santé grâce à Babil Healthcare, un service numérique alimenté par un chatbot. Plus de 2 millions de Rwandais bénéficient à distance d'un diagnostic des problèmes de santé, de conseils médicaux et de prescription des médicaments, allégeant ainsi la pression sur les médecins et les centres de santé surchargés. Ce système innovant marque un tournant dans la prise en charge des patients, bien que des débats subsistent sur la comparaison avec les soins humains. Davantage avec Nani Talani.
Babil Healthcare est un système basé sur un chatbot qui pose des questions médicales pour interpréter les symptômes d'un patient. Les utilisateurs de smartphones peuvent obtenir des conseils médicaux en entrant leurs symptômes dans une application mobile. L'initiative est une aubaine pour les zones rurales. Patrick Singa, directeur médical de Babil Healthcare.
Entre 80 et 90% de nos clients nous appellent des zones rurales et non des villes. Et je pense que la raison en est que dans les villes, les gens ont un certain accès aux soins de santé. Ce produit est le plus important pour les personnes qui n'y ont pas accès et qui vivent dans les zones rurales. Ce sont des gens qui, pour voir un médecin, doivent voyager peut-être toute la journée ou quelques heures pour se rendre à l'hôpital.
Le logiciel de l'entreprise est censé être si avancé qu'il a démontré sa capacité à fournir des conseils en matière de soins de santé comparables à ceux des cliniciens en exercice. Mais certains contestent ces affirmations, estimant que si la technologie a ses mérites,
elle ne pourra jamais fournir le même niveau de soins qu'un être humain. Patrick Singa.
We still need doctors.
Nous avons toujours besoin de médecins, mais l'intelligence artificielle telle que nous la concevons n'est qu'un outil que nous mettons entre les mains des médecins pour leur donner les moyens d'agir. Voilà comment nous voyons les choses. Nous ne cherchons pas à remplacer les médecins, mais à les renforcer, à accroître leur capacité et à améliorer ce qu'ils font.
Ceux qui n'ont pas accès à Internet appellent le centre de santé de la société à Kigali. Celui-ci réalise plus de 800 consultations par jour. Aimé Nduimana, agent de santé de Babil.
Ici à Babil Health, il y a des infirmières de triage. Ce sont elles qui ont le premier contact avec les patients pour voir si leur état de santé correspond à ce que les médecins de Babil Health peuvent traiter. Lorsqu'elles trient les patients, elles l'inscrivent sur la liste pour qu'ils soient vus et appelés par un médecin de Babil Health.
Les utilisateurs de Babil peuvent recevoir des ordonnances directement sur leur appareil mobile et accéder à leur dossier médical et à leur historique de santé. Nadine Munezero, utilisatrice de Babil Health.
Un avantage à consulter Babil. Vous ne payez pas tous les frais parce que vous utilisez les téléphones pour vous faire soigner. Et ensuite, vous ne perdez pas des heures dans une file d'attente comme ces patients. Vous venez chercher les médicaments et vous retournez à vos affaires. C'est vraiment un gros avantage et une méthode intelligente.
La consultation coûte 200 francs rwandais grâce à des subventions de la Fondation Bill and Melinda Gates et à un partenariat entre Babil et le gouvernement rwandais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les États arabes ont adopté un plan égyptien pour l'avenir de Gaza et ont appelé la communauté internationale à soutenir ce plan. Israël affirme que le Hamas ne doit jouer aucun rôle dans l'avenir de Gaza. Les détails avec Linda Greatstein. Et récit Thierry Kaoré.
Alors que l'avenir du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste incertain, les dirigeants arabes se sont réunis au Caire mardi pour discuter de l'avenir à long terme de la bande de Gaza. Le plan proposé par l'Égypte, qui a été approuvé par les autres dirigeants arabes présents au sommet, prévoit que l'autorité palestinienne joue un rôle de premier plan dans la reconstruction de Gaza en collaboration avec un comité de technocrates palestiniens indépendants. Le plan prévoit la présence d'une force de maintien de la paix de l'ONU à Gaza pendant 6 mois. Il ne mentionne pas le désarmement du Hamas, principale exigence d'Israël et de l'administration américaine. Gerson Baskin est un ancien négociateur israélien.
Les dirigeants du Hamas à l'extérieur de Gaza ont clairement indiqué depuis des mois qu'ils étaient prêts à renoncer à la gouvernance de Gaza en faveur d'un gouvernement technocratique non partisan, civil et professionnel. Mais la question que les dirigeants du Hamas n'ont pas abordée de manière adéquate est celle de leurs armes et de leurs forces armées.
Le chef du Hamas, Sami Abu Zuri, affirme que l'organisation ne déposera pas les armes, qualifiant l'idée de non-avenue. Gerson Baskin estime qu'en l'absence d'alternative, le Hamas est en train de regagner du terrain à Gaza.
Ma crainte est que, puisqu'il ne reste pratiquement plus personne de la direction politique du Hamas à Gaza et que la plupart des anciens chefs militaires ont été tués par Israël pendant la guerre, les personnes qui montrent maintenant qu'elles sont au pouvoir sont de jeunes officiers de 2e, 3e et 4e rang et qui ont les capacités financières de recruter de nouveaux jeunes, de leur donner $200, un uniforme et une arme et de reconstituer leurs forces une fois de plus.
Les dirigeants arabes présents au sommet du Caire sont tous d'accord pour dire que le plan du président Trump, surnommé la Riviera de Gaza, qui prévoit que les États-Unis prennent le contrôle de Gaza et que les 2 millions de résidents palestiniens partent vers d'autres pays arabes, est inacceptable. Ils affirment que les habitants de Gaza doivent rester à Gaza malgré les destructions massives causées par 6 mois de guerre. En revanche, le gouvernement israélien soutient le plan de Trump. Certains analystes israéliens affirment qu'il existe des options pour une gouvernance palestinienne indépendante. Jonathan Reynolds dirige le département d'études politiques de l'université de Bar Ilan.
Le Hamas sera remplacé par une personnalité modérée non corrompue, issue des Palestiniens, qui gouvernerait sous l'égide de l'autorité palestinienne. mais pas directement l'autorité palestinienne qui dirige la Cisjordanie, qui est très corrompue, mal gouvernée et encore assez extrémiste. Et cette personnalité existe. Elle s'appelle Salam Fayyad.
Salam Fayyad est un économiste et un ancien premier ministre palestinien qui a été élu en tant qu'indépendant et qui s'est tenu à l'écart de la corruption présumée de l'autorité palestinienne. Il entretient également des liens étroits avec les Émirats arabes unis qui financeraient très probablement au moins une partie de la reconstruction de Gaza, dont le coût est estimé par l'ONU à plus de 50 milliards de dollars. Le sommet arabe a appelé la communauté internationale à assumer la responsabilité globale de la reconstruction de Gaza.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Les branches du Bénin seront désormais sous la responsabilité du gouvernement nigérian avec l'assentiment du souverain royal de l'État du Bénin qui a été nommé gardien de ces objets précieux il y a près de 2 ans. Le point avec Ginny Niwa.
Le Nigeria tente de récupérer des milliers de sculptures et de moulages en bronze complexe qui ont été pillés par des soldats de l'Empire britannique au royaume du Bénin. Situé dans ce qui est aujourd'hui le sud du Nigeria, en 1897. En mars 2023, le président de l'époque, Muhammadu Buhari, a signé un décret déclarant que l'Oba, ou roi du royaume historique du Bénin, était le propriétaire légitime de tous les bronzes du Bénin restitués et qu'il était responsable de la gestion de tous les lieux où les objets d'art sont conservés.
Le retour de ces objets ne consiste pas seulement à les exposer dans les musées ou à en prendre soin. Il s'agit de la dignité de notre peuple et de la réparation de l'injustice de 1897. Cela signifie que même si nous n'avions pas un seul musée, nous serions toujours en droit d'exiger la restitution de nos objets.
Le directeur a déclaré que l'Oba ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour prendre soin des bronzes.
Le NCMM, en tant qu'agence légitime mandatée par le gouvernement pour administrer les antiquités, est donc le partenaire logique et c'est là qu'intervient l'accord de gestion entre l'Oba et le NCMM. L'Oba nous a donné sa bénédiction pour que le NCMM ait les droits légitimes d'exposer, de conserver et de poursuivre le rapatriement de ces objets, de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il existe également un projet de musée royal du Bénin dont l'Oba sera le mécène et où les objets les plus exquis seront désormais exposés.
And to pursue repatriation of these objects. So there's no ambiguity.
Les accords de restitution d'une centaine d'objets avec le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Cambridge se poursuivent.
Il y a plus d'objets d'art du Bénin aux Pays-Bas, pas dans leurs musées, mais peut-être dans des collections privées et autres. Je pense donc qu'il s'agit d'une situation similaire à celle qui prévaut actuellement à Cambridge. Et pendant que nous étions aux Pays-Bas, nous étions toujours en pourparlers avec eux. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est un processus. Mais je crois que rien n'a bloqué ce processus. Ce n'est plus qu'une question de temps jusqu'à ce que nous soyons en mesure de conclure.
Les bronzes volés font partie des objets les plus beaux et les plus importants du patrimoine africain, dont une bonne partie se trouve encore en Europe.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezello, à la mise en onde, Georges Léon Arsagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.